Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie ?
Oui, j'ai 18 ans, je suis en première année de fac de droit et je suis militant Les Républicains.
Et ça fait combien de temps que tu es militant au sein des Républicains ?
Ça va bientôt faire un an.
Quels sont tes premiers souvenirs, les premiers contacts que tu as eus avec la politique ?
Je viens d'une famille où parler politique, c'est pas tabou. On en parlait beaucoup, à table, etc. Mais le vrai premier souvenir, la première campagne que j'ai vraiment suivie, ça devait être les européennes de 2019. Et où, à l'époque, j'avais été, si je commençais à réfléchir, à penser à la politique, et j'avais été... je suis rentré dans l'engouement de la campagne de M. Bellamy, malgré son score de 8%, je crois. Mais c'est le premier vrai souvenir de politique que j'ai eu, où je me suis dit, tiens, là, je me reconnais dans quelque chose, même si je n'avais pas milité ni même adhéré à l'époque.
Et quand tu dis que dans ta famille, parler politique, c'est pas tabou, est-ce que justement tes parents ont pu t'amener à militer pour ce parti-là précisément, ou du moins pour les grandes valeurs et les grandes thématiques qui sont portées par les Républicains ?
Mes parents n'ont jamais été encartés, n'ont jamais milité de leur vie, mais c'est pas les trahir de dire qu'ils ont toujours eu plutôt une tendance à être à droite. Donc c'est sûr que dans les conversations, j'ai été plus porté peut-être à adopter un discours qui était semblable, même si depuis je l'ai étayé par des lectures, par des discussions, des débats. Mais en tout cas, oui bien sûr, c'est en partie avec eux que j'ai construit mes premières bases politiques très concrètes.
On peut considérer qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis... des institutions, des appareils politiques, etc., d'une partie de la population française. Pourquoi toi, tu as choisi de t'engager au sein d'un parti et pas, par exemple, d'une association, d'une ONG ? Pourquoi le parti politique et la démarche de... Tu parlais d'être encarté, pourquoi la démarche de prendre sa carte dans un parti ?
Militer, et ça, je pense que les organisations politiques qui le font bien, c'est aussi beaucoup débattre et se construire politiquement. Quand j'adhère aux Républicains, c'est pour deux grandes raisons. C'était pour soutenir l'effort aux élections régionales et c'était aussi pour rencontrer des jeunes qui pensaient épreuver comme moi, avec qui on avait les mêmes tendances et avec qui on pouvait construire quelque chose. Alors c'est devenu des amis maintenant, mais construire quelque chose politiquement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un parti et pas une organisation européenne, alors que, enfin, une organisation associative ? C'est parce que moi je veux faire de la politique. Je considère que aujourd'hui le combat politique, quoi qu'on en dise, même s'il y a une défiance, il se fait dans les partis. Parce que demain, pour qui on vote, que ce soit au présidentiel en ce moment ou au législatif dans quelques semaines, c'est pour des partis politiques. C'est pas pour des associations. Et même si je comprends le combat associatif, même si je pense qu'il faut le mener, c'est un combat qui est annexe et moi qui m'intéresse. Mais pour moi, je mets la politique au premier plan, la politique, la vraie politique, celle qui s'occupe des problèmes au niveau de l'État.
Pour l'élection présidentielle, donc le premier tour a eu lieu dimanche dernier, donc les Républicains étaient représentés par Valérie Pécresse. On va dire qu'il y avait plusieurs autres partis ou sensibilités de droite qui étaient représentées. Alors, allez, si je vois très large, et tu peux me contredire, hein, on va dire qu'il y a Emmanuel Macron... dans une certaine mesure, ou au moins selon ses dires, on va dire Éric Zemmour qui voulait faire l'union des droites, et puis dans une certaine mesure aussi Jean Lassalle qui représente un certain courant. Pourquoi les Républicains et pas un autre de ces partis ou une autre de ces sensibilités, et même des partis qui ne sont pas forcément représentés à l'élection présidentielle, mais qui se revendiquent de la droite ?
Alors pourquoi pas Emmanuel Macron ? Parce que La République En Marche, j'ai des amis qui y sont, mais ce n'est pas un vrai parti politique. C'est un parti qui ne forme pas ses militants. J'ai du respect pour eux, mais ça se voit, c'est pas fait pour ça, c'est pour soutenir un président de la République qui prend des choix et qui peut changer de ligne au fur et à mesure. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, soutenir un homme, très bien, mais c'est pas mon esprit. Moi, ce que je veux, c'est soutenir des idées, un courant de pensée. Jean Lassalle, j'ai beaucoup de respect pour lui. D'ailleurs, il a fait un score assez impressionnant au présidentiel, qui témoigne aussi d'une défiance, parce qu'en fait, lui portait quelque chose qui était très anti-média dans les dernières semaines. Mais Jean Lassalle, pour moi, parce que l'élection présidentielle, c'est aussi une élection où il faut un homme, un homme ou une femme, qui puisse porter la France. Jean Lassalle n'avait pas la prestance qu'il aurait fallu pour porter le poids des institutions, même si je reconnais beaucoup de points d'accord entre lui et moi. Pour ce qui est de Éric Zemmour, alors même si notre score pousse à la modestie, mais l'union des droites, ça ne fait pas 7%. Et Éric Zemmour, c'était l'union d'une droite qui était très dure. Moi, je me reconnais pas dans. Je me reconnais dans certaines idées, comme Emmanuel Macron, je me reconnais dans certaines idées, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis d'accord avec 100% des choses que dit Éric Zemmour, et je pense que lui, en tant que personne, ne serait-ce que pas la carrure, mais en plus porterait un coup terrible aux institutions françaises. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux bâtir un vrai projet, et je pense qu'il a été porté par Valérie Pécresse, malgré la défaite.
À quoi ça ressemble ton quotidien de jeune militant au sein des Républicains? Parce que, donc, tu l'as dit, ça fait un an à peu près que tu es engagé au sein du parti. Ça ressemble à quoi, notamment pendant la campagne de Valérie Pécresse?
Moi, j'ai commencé à militer un peu avant la campagne de Pécresse. J'ai commencé à militer pour le Congrès. Donc, je m'occupais des réseaux sociaux pour Barnier en Bretagne, pour Michel Barnier. Mmh.
Donc pour rappeler, le Congrès, ça a été entre guillemets une sorte de primaire interne, donc, oui. Qui a permis de désigner donc, Valérie Pécresse candidate.
Qui a désigné Valérie Pécresse, qui a gagné de très peu de choses par ailleurs au Congrès. Mais,
ouais.
Mais bon, c'est le jeu. Et donc j'ai commencé à militer pour Michel Barnier sur les réseaux sociaux, parce que c'était une campagne qui était encore à l'époque très marquée par le Covid. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que sur les réseaux sociaux, surtout quand on s'adresse aux militants et non pas à l'ensemble de la population. Et quand est arrivée en effet la campagne de Valérie Pécresse, quand Valérie Pécresse a été désignée, on faisait approximativement une ou deux actions par semaine. Donc ça pouvait être du tractage, collage, même si les affiches de sensibilité de droite à Rennes, ça dure ce que ça dure, ou du boitage, c'est-à-dire mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Donc c'est ça qu'on faisait principalement. Ça durait à peu près, ça nous prenait une heure, deux heures, trois heures par semaine. Et autrement, on se réunit hebdomadairement, les jeunes républicains, pour parler politique, pour se former, parce qu'on a des écoles de formation. Et donc c'est ça que ressemble le quotidien d'un militant chez les Républicains, en tout cas.
Bon, ça fait déjà un an que tu es dans le parti, donc ça fait pas tant d'années que ça non plus. Mais est-ce qu'au bout d'un an, il y a des fois où tu t'es dit, il y a des comportements, des prises de position on va dire de la part des moins des instances dirigeantes, mais même en général, est-ce qu'il y a des comportements, des prises de position qui t'ont un peu déçu?
Forcément. Même pendant la campagne de Valérie Pécresse, moi j'ai fait campagne jusqu'au bout, mais il y a des prises de position que j'ai pas du tout appréciées, que j'ai pas du tout, que je me reconnaissais pas du tout dedans. Mais forcément, parce que quand on se retrouve avec des gens, enfin, il y a 70 millions de Français, 70 millions de courants de pensée. Donc c'est normal qu'on ne se reconnaisse pas dans tout ce qui est dit. Mais jamais au point de me dire « Non, j'en peux plus de ce parti, je
jette l'éponge. Okay. »
Donc jamais à ce point-là. Mais maintenant, c'est vrai que il y a eu des choses qui ont été dites, même pendant le congrès, des gens qui ont pris position alors qu'ils n'auraient pas dû... pendant la présidentielle, certaines personnes qui ont fait la campagne, je dirais pas de nom, mais de manière calamiteuse. Forcément, on est quelquefois un peu démoralisé par ce qu'on voit, mais on se dit ça va changer.
Est-ce que il y a une thématique qui, selon toi, a pas été suffisamment abordée ou pas du tout abordée dans la campagne et qui aurait mérité de l'être?
Il y a eu dans cette campagne, moi je vois quand même trois grandes thématiques qui ont été abordées, portées par trois grands candidats. On a d'un côté la crise sociale et la crise climatique qui a été abordée par Jean-Luc Mélenchon notamment, qui est c'est important d'en parler. Une crise identitaire qui semble exister parce que le discours a quand même porté, qui a été porté par Éric Zemmour pendant toute la campagne, et puis le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat notamment qui a été porté par Madame Le Pen. Et Emmanuel Macron qui a fait un grand score, je ne trouve pas qu'il a mis de grandes thématiques sur la table, mais il n'a pas fait campagne, donc c'est plus difficile. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est la souveraineté de la France. Pour moi, la France doit être souveraine, donc au sens historique, au sens de Jean Baudin, au sens de Guy Coqui, au sens de tous ces gens, et plus récemment de Charles Pasqua ou de Philippe Seguin. Pour moi, c'est super important. Pour moi, il faut la mettre sur la table, parce que pour moi, si on ne fait pas ça, alors certains le veulent, mais moi non, la France va disparaître au profit de l'Union européenne notamment. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que demain, mon drapeau continue de flotter, le drapeau de la France continue de flotter partout sur les mairies. Je veux pas que l'Union européenne se développe outre mesure, plus qu'elle ne l'est maintenant. Moi, j'ai cette pensée très gaulliste, en fait. Pour moi, la France doit absolument être souveraine. Ça ne veut pas dire ne pas coopérer avec personne. Ça ne veut pas dire mettre fin à toute idée d'Union européenne, parce que l'idée d'Union européenne, elle est millénaire. Hein, elle est sous les écrits d'abord des grands philosophes religieux, au Moyen-Âge, puis de Victor Hugo, qui parle d'États-Unis d'Europe à l'époque. Mais je pense que c'est important, et parce que l'Union européenne a tendance à prendre énormément de poids, et le fait que les candidats qui parlent de Frexit n'ont pas, enfin, en tout cas n'ont presque pas pu se présenter, Asselineau, moi, plein de divergences avec Asselineau, je suis pas d'accord sur énormément de choses, et je suis même pas d'accord avec le Frexit par ailleurs, mais il a pas pu se présenter, bon, est-ce que c'est mérité? Sûrement. Mais par exemple, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas pu faire passer ses idées non plus, et il a fait 1-4, je crois. Donc bien la preuve que ça, c'est une thématique qui n'a pas prise dans l'opinion publique, peut-être vis-à-vis des crises, etc. Et pourtant, ce sont ces crises-là, je pense qu'on les résoudra en partie grâce à la souveraineté de la France.
Il y a eu, et il y a encore plusieurs crises d'envergure ces dernières années. Il y a crise sanitaire, la crise au niveau international avec ce qui se passe en Ukraine, et puis évidemment, ce qu'on considérait comme la crise climatique avec le rapport du GIEC qui est tombé il y a quelques semaines. Comment toi, personnellement, si tu réfléchis à ton avenir et à ton horizon, ben comment tu vois ça? Comment, personnellement, tu vois ton avenir, ton futur?
C'est vrai que c'est un peu anxiogène. La crise sanitaire, on en parle un peu moins en ce moment, parce que avec les élections présidentielles, avec la crise internationale en Ukraine, et même le fait qu'on ait une grosse partie de la population soit vaccinée, ce qui fait que les dégâts restent limités. Mais je suis sûr et certain, et d'ailleurs c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, donc c'est pas forcément mon courant de pensée, pas du tout même, mais qui disait que les crises de ce style vont se reproduire, et c'est lié aux crises climatiques. Ça je suis persuadé aussi, donc il faut qu'on s'y prépare. La crise en Ukraine, elle montre les faiblesses de l'Occident aujourd'hui, elle montre les faiblesses de la diplomatie française. Prenons un exemple, hein, l'Ukraine qui a inventé un nouveau mot qui s'appelle macroner, c'est-à-dire s'inquiéter pour quelque chose mais ne rien faire. Bon. Quand on aime la France profondément et qu'on entend ça, on se dit bah la France elle a pris un coup, quoi. Et la crise climatique qui est sans doute la plus importante de toutes, parce que de cette crise-là va découler, on le dit, on en parle beaucoup, mais aussi une crise migratoire gigantesque. Personne n'a envie que les gens quittent leur pays, que ce soit pour eux, parce qu'on va pas... Enfin, moi, si je devais quitter la France, s'il y avait un tsunami, ça me déchirerait. C'est pareil pour ces pauvres personnes. Donc il faut accueillir d'ailleurs si c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, pour moi, rien n'est perdu, je suis optimiste. Je me dis pas c'est foutu, il reste plus rien à faire. Parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où si quelqu'un n'avait pas dit c'est foutu, enfin si tout le monde s'était dit c'est foutu, il reste plus rien à faire, on n'en serait pas là. Il y a toujours des gens qui innovent. Moi, je crois en la science. Je pense qu'elle peut encore nous sauver. Il faut y croire. Et si on n'y croit plus, c'est là qu'on va échouer forcément à faire face à ces crises. Donc demain, il faut que la jeunesse de ce pays, et même les moins jeunes, mais se mobilise, y croit, et porte un message d'optimisme, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y réussir. Et moi, c'est ce que je crois profondément. J'espère que c'est ce que je pense qui va s'arriver. Mais en tout cas, voilà mon état d'esprit général.
Si on parle d'avenir professionnel maintenant, qu'est-ce que tu veux faire déjà plus tard? Et est-ce que la politique, ça pourrait être une voie qui pourrait t'intéresser?
Carrément. Carrément, parce que moi, j'adore ça, déjà. J'adore la politique. J'adore tracter, coller, parler aux gens, les convaincre. Alors, c'est plus ou moins difficile. C'était difficile pendant la campagne. Mais il n'empêche que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. J'ai fait quelques. Voilà, j'ai parlé à plusieurs élus, etc. Tout ça, c'est un monde qui m'intéresse. Maintenant, est-ce que je me vois faire de la politique directement en sortant de mes études? Non. J'ai envie d'avoir un métier, qui soit dans le domaine du droit. Je suis pas encore décidé, mais j'ai envie d'avoir en tout cas un métier avant de me lancer, d'avoir affronté le monde professionnel avant de me dire je vais, voilà, je suis légitime pour me lancer en politique. Pour moi, c'est important.
Merci Alexis.
Merci à vous.